Salut à tous et bienvenue dans Mes Plus Forts, votre magazine musical régional à Châlons-en-Champagne sur Radio Mono, à Troyes sur Radio Campus 3 et à Reims sur Radio Primitive et RJR. Au programme aujourd'hui, le coup de cœur de jeudi de Radio Mono, le prochain rendez-vous de l'assaut Aquatin Song, la cinquième Densodrome de Yuxec et ses invités. Et pour commencer, retour sur le Courzic Festival qui avait lieu les 7 et 8 mars dernier à Courcy près de Reims. Un beau succès de fréquentation avec les Wriggles, Johnny Montreuil, Soviet Suprême et Monty Picon, pour ne citer que cela. Jean-Luc est allé promener son micro vendredi 7 mars et a rencontré Johnny Montreuil et Soviet Suprême. Il s'est d'abord entretenu avec Sylvester Staline, donc des Soviet Suprême.
J'ai vu, vous revenez tous les 5 ans sur ce festival. Mais pourquoi?
Oui, parce que je pense parce qu'ils nous aiment bien, qu'on s'est bien comporté, qu'on n'a pas tout cassé. Et qu'ils nous aiment bien, mais on m'a dit qu'on était venu. Parfois, je confonds, j'arrive pas à me rappeler de tout, parce qu'on en fait pas mal.
À notre festival dans le coin?
Si, je m'en souviens, je sais qu'on est venu ici il y a quelques années.
Par rapport à vos différents projets, les Soviets Suprêmes, ça représente quoi?
Les Soviets Suprêmes, ça représente beaucoup de temps. Ce qui n'était pas prévu au départ, parce que quand c'est un groupe qui a 10 ans aujourd'hui. Enfin, ouais, on a démarré en 2014, plus de 10 ans même. Et à l'époque, c'est parti d'une blague. C'est-à-dire qu'on n'avait pas prévu de monter un groupe ensemble, mais on avait prévu de, on a fait une soirée, c'était les soirées de Balkan Beats qu'on appelait à Paris, qui ont lieu dans toute l'Europe, à Berlin aussi, mais on avait fait une à Paris. Et je me rappelle, c'était même en 2013 que c'était avant le jour de l'an, c'était juste après Noël. Il faisait très froid, c'était à la Java, à Paris, à Java en plus. Ouais. Et il y avait une très bonne ambiance et on a fait cette soirée-là avec un DJ qui s'appelle DJ Tagada, qui est un organisateur de soirées Balkan et qui est un ami aussi. Et quand on a fait ce truc qui était un truc d'improvisation, ça a tellement bien marché qu'on s'est dit qu'on allait en faire un groupe, mais on voulait faire un groupe de DJ. C'était pour animer les soirées DJ, c'était pas pour
tourner dans la France entière.
Et puis pour monter un vrai groupe avec voilà. Et quand on a rigolé, puisque c'était un mélange de musique de l'Est que Thomas fait beaucoup avec la caravane, vu que lui il est originaire de Pologne et de Roumanie et que il est passionné de musique tzigane, qu'il est marié avec une Serbe, que de toute cette culture, et donc il est passionné de musique de l'Est, qui m'a fait découvrir, parce que moi je connaissais assez peu toute cette musique. Et quand il s'est agi de monter le groupe, comme le folklore dans lequel on allait puiser ces musiques, tout en mélangeant avec de la musique moderne, était des ex-républiques soviétiques, on s'est dit, tiens, on va s'appeler Soviet Suprême. Et le postulat de départ, ça a été d'imaginer ce qu'aurait été la musique aujourd'hui si l'URSS avait gagné la guerre froide. Donc c'est pour ça qu'on a fait un premier album qui était donc la traduction de la world music en vu par l'œil de Moscou, c'était l'international. C'est pour ça qu'on a appelé le premier album l'international. On est parti dans plein de musiques différentes qui allaient du sirtaki grec à la cumbia mélangée avec plein de musiques différentes, avec de la musique de western, etc. Et voilà, ça a été le postulat de départ. On a sorti cet album, ça a tellement bien marché qu'on a tourné, qu'on en a ressorti en 2018 qui s'appelle Marx Attack, qui était plus un album là électro-futuriste, où on imaginait plus l'URSS des années 80. Il y avait tout un délire autour de ce truc de si on avait été cryogénisé, quoi, où c'était la fin, la décadence soviétique, le début Brejnev, tout ça, et puis avec des sons qui correspondaient avec ce délire là et puis
dystopie.
Et puis on s'est dit qu'on avait fait le tour, qu'on n'allait pas continuer à ce groupe-là, vu que ça devait pas durer. En plus, est arrivée la guerre en Ukraine. Donc, ce qui est marrant avec ce groupe, c'est que l'actualité nous a toujours rattrapés. Dire quand on a fait une chanson sur Vladimir, sur Poutine, etc., c'était bien avant qu'il envahisse l'Ukraine. C'est vrai que je crois qu'il y aurait des qu'on l'a appelé le conquistador, qu'il aurait eu des vues impériales. Enfin, et à chaque fois, on est rattrapé. Alors là, c'est pour nous le feu d'artifice, c'est le bouquet final, l'arrivée de Trump, tout ça, c'est un boulevard pour Soviet Suprême.
Alors est-ce que tu penses pas qu'ils écoutent vos morceaux en fait?
Mais je sais
dirigeants du monde.
Ce que je sais, c'est qu'on a une chaîne un peu sur les réseaux, sur Facebook et Instagram, qu'on a créé un journal un peu satirique, et que on s'est fait souvent censurer et fermer la page. Ça continue encore aujourd'hui, parce qu'on fait de la caricature. Et que, voilà, et c'était marrant, parce que tout ça est apparu justement après les attentats de Charlie. On a été en plein dedans, parce qu'on a, on est né en 2014-2015, et donc, il y avait beaucoup de gens, ils mettaient sur leur page, je suis Charlie, et qui ne supportaient pas nos caricatures, ce qui était, alors qu'on est les héritiers de cette satire-là, de Harakiri, de Charlie Hebdo, première mouture, de Groland, oui. Voilà.
Je pense à Groland.
Voilà, on a même des acteurs dans nos clips qui sont des acteurs de Groland. On a notre garde du corps officiel qui est aussi garde du corps, qui était garde du corps du président de Groland. Le président de Groland avait été à la fête de l'Huma avec nous, c'était un grand maman, ça aussi. Et voilà, et pour revenir aux albums qu'on a fait, on pensait arrêter. Et puis un jour, mon fils, qui a 21 ans, mais qui avait 17 ans à l'époque, 18 ans, me dit « Votre projet, ça marche pas. Moi, quand je vais faire Soviet Suprême. » Sur une blague, pareil, il me dit « Moi, je vais faire Soviet Suprême en Chine. C'est un plus grand marché communiste. Et ça marchera beaucoup mieux. » Je lui ai dit « Mais c'est génial, t'as raison. » Et donc, on a décidé d'appeler le nouvel album, mais on a déliré sur cette idée-là. Pourquoi pas, parce que finalement, Soviet Suprême, ça n'existe pas, donc c'est comme un pays imaginaire, on peut aller partout. Et ce qui nous a permis aussi d'aller chercher, parce qu'on aime bien dans la musique, il y a toujours l'idée du voyage, et puis l'idée de l'identité, de garder son identité, ce que Thomas a toujours fait dans ses projets, et moi aussi, c'est-à-dire avoir cette identité, on est parisien, français, avec nos origines différentes, etc., mais avec cette idée de satire avec Soviet Suprême, l'idée de la satire, c'est quelque chose de très, culturellement, c'est très français aussi, et l'idée de voyager, toujours, de pouvoir que la musique nous permette de voir ailleurs, tout en apportant le chose, qui est le principe aussi du concert, c'est-à-dire qu'on vient, nous, avec notre identité, et puis les gens nous apportent d'autres choses, et avec l'idée de partir en Asie, Thomas, lui, il est passionné d'instruments, Thomas John Lennon dans Soviet Suprême, il a pu partir dans un délire avec les arrangements, parce que c'est lui qui fait tous les arrangements et la compo pas mal. Et on s'est amusé avec d'avoir un cadre. On prend toujours des cadres assez précis, mais à l'intérieur, c'est comme des exercices. Des postulats de départ et pour pouvoir faire de la musique et des chansons tout simplement. Mais l'idée, je pense qu'un objet artistique entre guillemets, mais ça doit l'image, tout le discours, ce que dans les maisons disques ils appellent le storytelling est hyper autant important que la musique en elle-même. C'est-à-dire que tu peux faire la meilleure musique du monde aujourd'hui si hélas, mais si même que Jean-Sébastien Bach, s'il arrivait aujourd'hui et qu'il n'avait pas une image autour, ça ne marcherait pas, ce qui est horrible, mais ça fait
c'est notre monde actuel.
Nous on joue avec ça et donc on a fait cet album Made in China. Et je pense qu'on a sorti un peu trop tôt, on aurait dû attendre là, parce que je pense qu'ils vont envahir Singapour.
C'est pas une bonne nouvelle.
Pas Singapour, Taïwan. Ils attendent que ça. Mais je pense que les Chinois vont être la Chine va être le nouveau, justement, le nouveau modérateur du monde et beaucoup plus moins impérialiste que ce qui est. Et ce qui est marrant, parce qu'avec Soviet Suprême, il y a toujours, on a une vision comme ça, les gens sont. Il y a toujours cet anticommunisme primaire, mais vous avez pas honte de rire avec ça, les milliers de boules, etc. Et on s'est jamais rendu compte que, en fait, déjà, c'est pas les Américains qui ont libéré la France, ils sont arrivés parce qu'ils savaient très bien, c'était les Russes qui ont quand même payé le plus de tribut. Donc il y a toujours de la nuance en histoire, il y a pas. Et toujours, alors qu'on est finalement depuis 45, on est colonisé d'une certaine manière, alors du point de vue culturel, musical, etc., par les États-Unis. Et tout d'un coup, là, c'est génial ce qui est en train de se passer. Parce que tout d'un coup, les États-Unis vrillent et on s'aperçoit que. Donc pour nous, je trouve ça passionnant et je trouve que. Il y a beaucoup de choses à dire en musique parce qu'en plus on est dans la satire, dans le grand guignol, et on s'amuse avec ça, on fait monter Trump sur scène. Donc c'est voilà, c'est jubilatoire de faire ce groupe.
Et est-ce que vous avez été en Chine avant de commencer l'écriture des textes?
Pas du tout. En fait, on voulait faire, on n'avait pas assez d'argent, mais on voulait faire croire qu'on avait enregistré l'album en Chine et y aller en Chine et juste pour faire des vidéos et dire vu que tout est dans le fake. Mais on n'a pas été jusqu'au bout parce que déjà c'est un album qui est autoproduit, donc on n'avait même pas de quoi se payer les billets pour aller là-bas. Mais moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2009, 2010. J'ai fait une tournée en Chine avec Java. Et j'étais allé jouer à Wuhan, donc la ville du Covid. Et je me rappelle du marché aux animaux. J'étais allé jouer là-bas, sur les bords du Yangtze-Kiang. Il y avait, c'était dehors, un concert. Il y avait un groupe de punk chinois avant nous. Et il y avait un parterre d'officiels avec des militaires devant le public comme des VIP. Je me souviens de cette chanteuse extraordinaire qui avait slamé sur les militaires. C'était génial. Et des gens aussi qui étaient surpris de, parce que quand t'es à Pékin, il y a, bon, alors, ça a dû changer maintenant. Je te parle ça, c'était il y a 15 ans. Mais à Pékin, c'est très, très, très moderne. Et il n'y a pas ce truc de rue qu'on retrouve dans l'Asie, ça a été gommé un peu. Par contre, une ville comme Wuhan, qui est une petite ville de province de 12 millions d'habitants, je crois, tu vois, oui. qui doit faire l'île. Et bah, il y a ce truc-là avec justement ce marché, mais de Chine, un mélange moderne, hyper moderne et traditionnel en même temps. Voilà. Donc c'est ma seule expérience en Chine. Mais l'idée, en appelant l'album Made in China, c'est aussi faire un pied de nez à. C'est ce qu'on fait toujours avec Soviet, avec tous les clichés autour de l'Asie, puisque c'est un album qui tourne, il y a un morceau qui est de musique un peu thaïlandaise, il y a tous les instruments de l'Asie, c'est un voyage, et puis il y a, ça c'est Thomas qui saurait mieux t'en parler, parce qu'il pourrait te parler de tous les instruments, et puis c'est pas non plus de faire un album sur la Chine, c'est-à-dire que, moi bon, il y a un titre qui parle de Mao, bien sûr, mais c'est aussi de jouer avec les clichés Made in China, parce qu'on a tout un délire de on a toujours détourné les marques avec Soviet Supreme. On a fait une marque, un logo que c'est Air Max avec le signe Nike. Notre logo, c'est le smiley qui est connu avec la faucille et marteau. Donc l'idée, c'est de détourner le marketing pour en faire de co-commercial, quoi. De détourner, comme le, c'est exactement le contre. Par exemple, c'est le business qu'il y a eu autour des t-shirts du Che.
Okay. Voilà.
Nous, c'est le contraire. On prend les grands signes du capitalisme, comme la marque Nike, et on les rend soviétiques. Voilà.
Et ce soir, en live, la tenue de scène.
Il y a beaucoup de détournements. Voilà.
Et ce soir, la tenue de scène, elle sera comment?
Il y a une tenue, on est costumé, il y a du costume, il y a un décor, c'est l'idée, c'est de faire on est des grands guignols. Moi, j'ai commencé la musique, j'étais pas passionné d'instruments, mais j'ai vraiment, ce qui m'a donné envie de monter sur scène, c'est ma première émotion de scène, c'était quand j'étais gamin, c'était les vendeurs des peluches, les bonimenteurs sur les marchés. Et dans ce côté soviétique où on harangue, on leur parle mal, on est des dictateurs, il y a ce côté-là de, moi j'adore, mon père m'emmenait au cirque quand j'étais petit, j'étais fasciné par Monsieur Loyal, ce personnage.
Le présentateur principal.
Voilà, on sait pas si c'est un sale type ou, et ça c'est, ou si c'est, et il y fait un peu peur et en même temps il est drôle. Et j'aime bien ça en musique. Je trouve que le principe d'un groupe, enfin, quand on fait des concerts comme ça, il y a aussi toute une part d'animation. C'est pas que ça fait partie de, enfin, chaque, moi je, en tout cas c'est notre culture à nous, avec Thomas, parce que ce soit Thomas avec la caravane passe ou moi avec Java et mes projets solo, on a fait ce métier là avant. On ne vit que de la musique, ce qui est difficile, mais on en a fait notre métier grâce à la scène, dans un milieu qui est entre guillemets de ce milieu alternatif, qui est pas un milieu de, on passe pas à la télé, on est très peu médiatisé.
Et vous faites ça.
Quand on vit de la scène, on fait beaucoup de scènes et on est persuadé de ça. C'est-à-dire que quand on va sur scène, ça ne suffit pas d'arriver de jouer ses titres. Quoique, c'est ce que je fais maintenant avec le mental autour, un autre truc. Mais c'est pareil, il faut une mise en scène. Il faut, voilà. Moi, je pense que ça fait partie de. Et puis c'est un plaisir à faire.
Donc le principal quand vous êtes sur scène, c'est le public pour vous. C'est le plaisir de jouer ensemble. C'est quoi qui est
Moi, je pense que
un premier pour vous.
Je suis persuadé même de ça, c'est que si ça n'avait pas marché auprès du public, on n'aurait pas continué ce groupe. Et c'est vraiment, il y a un côté, c'est la fête avec Soviet, et il y a et c'est on, le principe de départ. Donc, c'est, je te dis, c'est la révolution du dance floor, c'est de faire danser les gens et de les maltraiter aussi, parce qu'il y a toute une démagogie aussi dans la musique, les chanteurs au premier degré ou toujours des bonnes idées, mais en fait, finalement, là, quand t'es dans un spectacle, c'est sur une estrade, t'es au-dessus des gens, c'est une dictature, tu leur fais faire. Donc, le fait d'exagérer ça, de mal leur parler, d'avoir un goulag sur scène, de leur dire d'applaudir au moment, mais tout ça dans un, dans, avec la satire.
Grand guignol.
Et puis, ça fait rire les gens, et je pense qu'on est dans une période,
particulière.
Angoissante pour plein de gens, et que de rire de l'actualité, et de faire danser les gens, d'exagérer ce qui est déjà un monde complètement fou et déjà rempli de clowns qui eux sont mal intentionnés et qui le font et tout en disant qu'ils sont au premier degré, c'est ça le problème. Et ben, je pense que ça fait, enfin, c'est les gens qui nous le disent, sinon on n'aurait pas arrêté. Je pense que ça fait du, le public aime bien et que ça nous le rend bien, quoi. Voilà.
Et le nom Courzic, il évoque quoi pour toi, à part le festival? Il pourrait évoquer quoi pour toi?
Une coursive.
Ah, pas mal.
Le cours, bah c'est tout, pour moi un cours c'est toujours une rivière, donc c'est la rivière, et comme la rivière c'est ce qui diffuse le plus le son, c'est les ondes de la musique. C'est d'ailleurs quand moi j'habite au bord d'une rivière et le son se propage énormément.
Voilà. Merci, jolie réponse. Et j'ai une dernière question. Si le temps s'arrêtait là tout de suite et tu avais la possibilité de faire un titre ou un album avec un artiste. Je te propose trois artistes. Ouais. Il y a Bobby Lapointe, Richard Gauthener et Philippe Catherine. Tu choisiras qui?
Je prends aucun des trois.
Ok, merci. Merci pour ce moment.
Mais même si j'aime ces trois artistes, mais s'il me restait 10 minutes à vivre, enfin très peu de temps à vivre.
Ah, j'étais pas jusque-là, c'était vraiment.
C'est les artistes que j'irai voir.
Très bien. Voilà. Merci.
Je t'en prie. Mais plus fort.
Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards, un tantinet têtu, tu voudrais savoir. Tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu, la retourner lui faire tâter du tatami. T'es triste, tu voudrais têter la tétine comme un tout petit, tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné et le temps te tasse. Alors tu tises et tu tâtes et t'étais d'autres tantines, mais la chair est triste et le temps fait
tic-tac.
Et personne ne toque, tu craques depuis qu'elle a pris,
c'est cliqué, c'est clash.
Et le temps fait
tic-tac,
personne ne rattrape, le doute rentre dans ta tête et tu tombes dans la trappe.
Boum, raka-tik-tik-tik-tong, raka-tik-tong, raka-tik-tong. Boum, raka-tik-tik-tik-tong, raka-tik-tong,
tu regrettes le temps d'antan quand t'étais son titan. Tu t'étanisais son palpitant. Qu'elle était attirée par ton statut de matamor aimanté. Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée. C'est toi qui l'attends tout retourner comme une tarte tata. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Tu fais le teckel, le tout pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand, quand t'as été. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui 14, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, regarde au retour du bâton. L'homme qui c'est qui 14, t'es tout dépité, depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui c'est qui 14, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, regarde au retour du bâton.
Soviet suprême dans mes plus forts, suite de ce retour sur le Kourzik Festival avec la rencontre de Jean-Luc, cette fois-ci avec Johnny Montreuil.
Johnny Montreuil, aujourd'hui, c'est un groupe? Ou c'est un personnage? Ou ça reste un personnage?
Ouais, ça reste, c'est moi qui l'incarne depuis le début. J'ai monté le groupe tout seul. Donc j'ai commencé tout seul avec ma contrebasse et ma voix et Wellou. Et puis, j'ai rencontré des potos au fur et à mesure, des musiciens que je suis allé chercher, que j'ai ramené. Il y en a qui ça l'a fait, il y en a qui sont repartis. Et là, on a une belle équipe, là, depuis, bah, Ronan et Kik, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble. Steven, il est arrivé après. Steven, il est arrivé pour en 2017. Donc ça commence à faire aussi. Et puis Marceau, lui, ça fait 2 ans, le dernier guitariste qui est arrivé. Et au niveau de la régie, Thérèse, elle est arrivée l'année dernière. Yann, ça fait 2-3 ans qu'il est avec nous. Et Noémie, cette année aussi.
Donc c'est une famille.
Mais voilà, en fait, c'est devenu une famille et un vrai. Et effectivement, je défends le projet tout seul. Je l'assume tout seul avec mes textes, mes chansons. Ça donne une grande liberté à tout le monde. Parce qu'ils sont pas, on n'est pas dans une dimension où le groupe existe ou meurt, et donc ça met une pression. Tu sors du groupe, ça met en péril le groupe ou pas. On n'a pas ce truc-là. Donc il y a cette liberté-là. Il y a le fait aussi que je peux me retrouver tout seul à faire le truc et c'est moins bien forcément. Mais selon certains contextes, ça, c'est cool. Et je parle du propos, je parle de l'univers, de ce personnage-là un peu que j'ai un peu fait renaître ou que j'ai inventé un peu à ma sauce. C'est mon compagnon de galère à moi, quoi. Ou mon compagnon de vie ou d'aventure, plutôt. Pas de galère, d'ailleurs, des fois, mais pas que, surtout du bonheur. Et par contre, sur scène, effectivement, ce qu'on a travaillé depuis le deuxième album, maintenant, et donc sur ce troisième-là. Alors, le troisième, en plus, celui-là, on l'a composé vraiment avec toute l'équipe, avec tout le groupe. On avait...
Le groupe de live, donc.
Le groupe, ouais, le groupe de live. En fait, il n'y a pas de groupe de studio et de groupe de live. Il y a les mêmes gens qui sont là. En studio, c'est plus élargi. On se permet d'inviter d'autres personnes, des gens qu'on rencontre, des gens avec qui on a envie de jouer, que ce soit... Il peut y avoir des sonorités, des jeux différents aussi, c'est intéressant. Mais sur le live, en tout cas, on est un vrai groupe. On joue tous les cinq sur scène. Et c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. Et je peux me retrouver tout seul quand on peut se retrouver tous les cinq à jouer. C'est cool. Ça commence à ressembler de plus en plus à des trucs qui me plaisent.
Et l'album donc, qui est sorti déjà l'année dernière, ça fait plus d'un an, Zanzibar.
Ouais.
Et donc, pour toi, c'est la fin d'une trilogie.
Parce qu'il y avait. On parlait comme ça un peu. Il y avait Narvalo City Rockers,
ouais,
le premier.
Ouais, c'est ça.
Narvalo Forever, le deuxième. Et celui-là, il y a un titre qui s'appelle Ciao Narvalo.
Le premier de l'album.
Ouais.
Ouais.
Et donc, il y avait un peu cette idée-là de faire un peu comme la trilogie du dollar. Moi, je suis grand fan de Sergio Leone et des musiques.
Ça s'entend.
Des New Morricone. Et puis surtout, non, mais la construction de ces trilogies à Sergio Leone, c'est assez incroyable et magnifique. Donc, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois l'Amérique, sa deuxième trilogie, la trilogie du dollar avant. Donc, il y avait un peu un clin d'œil à ça. Et en même temps, forcément, on raconte sur une période de 10 ans. Premier album en 2015, 2019, 2025. 2024, pardon. On a sorti des maxis, des choses, on a tous des projets aussi. Donc on n'a pas fait que ces trois albums-là pendant ce temps-là. Mais sur Johnny Montreuil, en tout cas, c'est comme ça que ça existait. Et ça raconte une période où je suis arrivé avec mes caravanes à poil à Montreuil et on construit quelque chose. Narvalo City Rockers, on est bien installé Narvalo City Rockers. Et puis Zanzibar, on commence à sentir peut-être qu'il faudrait mettre les voiles et réatteler la caravane et se barrer un peu plus loin. Donc ça évoquait un peu tout ça. Mm-hmm. Donc il y avait effectivement le fait de clore un chapitre, mais pas de fermer le bouquin.
Et au niveau de la production, le choix du producteur qui est très connu,
Jean Lamotte.
Ouais. Comment ça s'est fait? C'est de ta part ou de la maison de disques ou une rencontre?
Jusqu'à ce qu'on fonctionne, jusqu'à ce troisième album aussi, donc qui clôt un chapitre aussi avec la manière dont on a été accompagné jusqu'à ce moment-là, c'était avec Olivier Moulin, des Facéties de Lulusam, qui a monté sa boîte de prod. Il venait de Zamora. Et il a monté sa boîte de production en freelance et on a construit le projet ensemble en fait, bon, tous les deux au départ. Puis après les musiciens sont arrivés, donc ça s'est fait. L'équipe s'est agrandie. Mais au départ, on a vraiment mis le truc en place tous les deux. Donc il est producteur des tournées et producteur des albums aussi exactement. Donc à chaque fois qu'on avait des albums, des idées ou des envies d'enregistrer, ou lui qui me disait tiens, ça serait bien que vous entamiez là l'enregistrement d'un deuxième album, il y a un mec que je vais te présenter, François Cos, notamment sur le Desert Level, le batteur des Oufri Maracas, qui est aussi producteur, donc avec qui on a fait le deuxième, et puis on a rencontré une autre équipe où on l'a fait mixer en Bretagne, voilà, on a fait avancer le truc à la fin. Moi, je voulais le faire avec ces gens-là, et il m'a dit, encore une fois, pour répondre à ta question, j'ai pas oublié, il m'a dit, tiens, est-ce que tu connais Jean Lamotte? Et je ne connaissais pas Jean Lamotte. Ignare que je suis. Mais par contre, je suis allé voir qui c'était et j'ai vu les albums qu'il avait réalisés, notamment Bachou, Noir Désir, l'époque, Salif Keïta, puis d'autres albums beaucoup plus actuels aujourd'hui. Donc, je suis allé écouter ses productions, la manière dont il travaille, il mixe, il enregistre, et j'étais sûr et certain que c'était la bonne personne pour nous, qui correspondait à ce que moi j'imaginais, en tout cas, de l'enregistrement, ce que j'avais jamais réellement pu faire encore, parce que, effectivement, nous, on doit envoyer le signal. L'artiste, tu crois que tu travailles avec un producteur qui va tout faire, mais si tu arrives avec rien, il va pas faire à ta place. Donc, il faut vraiment qu'il puisse traiter ce que toi, tu proposes. Donc, il faut avoir plein de choses super à proposer et que ça lui parle pour qu'il puisse rebondir dessus. Et j'étais un peu inquiet, j'étais un peu pas stressé, mais comme tu as le track, à lui faire écouter mes maquettes et tout. Et il a fait, OK, c'est cool, on va y aller. Bon, on avait un budget aussi, donc ça arrangeait bien le truc. Et pendant l'enregistrement donc de ce troisième album Zanzibar qu'on défend sur scène là ce soir, on est devenus très amis en fait et on a eu envie de continuer de remettre le couvert. Donc là on est en train depuis 6 mois on est en train d'enregistrer le prochain.
Ah, très bonne nouvelle.
Voilà, notre album qui va arriver avec lui. Il m'a dit j'ai pas eu assez de temps sur celui-là là, j'aimerais avoir beaucoup plus de temps, qu'on commence dès le départ, il y a pas de pré-prod, il y a pas de je sais pas quoi. Mmh. On commence ensemble, dès que t'as du temps, tu viens en studio et on claque.
C'est motivant.
Donc on y est, c'est cool. Donc il y a Bass aussi qui est dans l'histoire, il y a d'autres gens. Ouais, ça va ressembler à autre chose, mais on va avoir la patte de Jean beaucoup plus présente. Et de toute façon, chaque album est différent et comme on le conçoit et comme on l'en... Vu qu'on parle un peu, c'est des chroniques un peu aussi de contemporaines, forcément, en 2 ans, il se passe des choses, et au niveau du son, et au niveau des personnes qu'enregistrent, et au niveau de ce qu'on écrit, donc il n'y aura pas de redite.
Et sur cet album, il y a des adaptations de titres en français.
Ouais.
J'en ai vu plusieurs. Oui, un titre des Clash.
Ouais.
Surprenant.
Ouais.
Excellent. Et tu peux nous parler un peu de la rencontre avec Rosemary Stanley, qu'est-ce que le titre est quand même très beau.
Ouais, vers
les félicitations.
Îles. Merci. Ce titre-là, donc je l'avais écrit. C'est peut-être le premier morceau que j'écris en me disant tiens, ça va être un dialogue entre un mec et une fille. Donc écrire en disant au départ il y a un parti pris, ça c'est la fille qui le dit et ça c'est le mec qui le dit. Sans rechercher non plus le champ lexical féminin, masculin, mais en tout cas c'est un échange de dialogue. Ça peut être deux mecs, ça peut être deux filles, mais ça c'est un mec et une fille. Et donc il a été écrit, enregistré de cette manière-là, en studio, et ensuite on se posait la question avec Jean, puis avec l'équipe, qui c'est qui va venir chanter ce titre-là.
De la voix féminine.
Voilà, et il y avait... Donc, fallait, alors on se disait quand même, on fait un album, donc il faut essayer de trouver une star. Une star pour que ça claque et que ça nous fasse kiffer, mais si c'est quelqu'un de connu et que ça marche pas musicalement, ça sert à rien.
Tout à fait.
Donc il y avait le fait est que Rosemary Stanley, bon, Moriarty, son groupe, il y a 15 ans, 20 ans, c'était très connu en rock. Aujourd'hui, ça l'est moins. Donc c'est pas non plus quelqu'un d'ultra connu. Par contre, en termes de, on a le même âge quasiment, un peu plus jeune. Et on a des univers musicaux au niveau de la folk, de la country américaine, etc. Il y avait pas mal de choses qui parlaient directement. Et le fait est qu'elle enregistrait un projet chez Jean Lamotte. Elle faisait des voix là-bas pour un album Wati Wata's Oreille Band. Donc c'est un projet sur des textes de La Réunion, etc. Elle devait enregistrer des voix.
D'accord.
Elle devait enregistrer des voix et elle demande à Jean ce qu'il faisait en ce moment. Il lui parle de Johnny Montreuil et il dit « Ah mais j'adore !» Et il me raconte l'anecdote en fait qu'elle connaissait, j'avais enregistré des comptines et berceuses Zigane qu'elle avait achetées pour ses enfants et machin. Donc elle connaissait Johnny Montreuil et puis elle aimait bien la voix, etc. Donc il m'a dit ça, je fais mais direct. Au début on avait contacté Catherine Ringer, on avait contacté. On cherchait plein de chanteuses comme ça, qui avaient des voix quoi, ouais. Et une personnalité quoi.
Emblématique, des artistes emblématiques.
Voix, personnalité, des artistes. Et puis voilà, et quelque chose qui corresponde en termes d'identité à nous aussi. Et comme il m'a parlé d'elle direct, et en plus qu'elle connaissait et qu'elle avait bien aimé, je lui ai demandé son numéro, elle a répondu direct, je lui ai envoyé le titre, elle a fait ah trop bien. quand vous voulez, on le fait. Voilà. J'étais super, super heureux que ça lui plaise, qu'elle le fasse. Et puis le moment où on l'a enregistré, on s'est pointé en studio tous les deux, elle était après ses voix. On avait monté un plan avec Jean, mais il n'y a pas eu besoin parce qu'elle a direct après quand c'était fini, elle fait bah on n'appellerait pas Johnny pour faire les prises là. Et, donc j'étais prévenu avant, mais donc j'ai pu me pointer rapidement. Et puis ça a duré 3 heures et puis on a fait ça. Et puis on a chanté plusieurs fois et on s'est éclaté. J'étais impressionné de voir. Tu sais, c'est une chanteuse comme des griots ou des chanteurs qui ont une grande maîtrise vocale. Qui bouge à peine les lèvres quand il chante, mais avec une profondeur incroyable.
Une puissance.
Je suis un peu
spontané.
Démonstratif.
Oui.
Là, il y a une vraie maîtrise.
Maîtrise, ouais.
Et donc, dans le moment, j'avais l'impression d'être bien et tout. Puis en réécoutant les prix, je me sentais tout petit. C'était génial. Ouais, c'est vraiment cool. Donc,
c'est complémentaire.
Ouais, donc c'est ouvert sur le prochain album. Il y aura plein de voix féminines.
Bonne nouvelle.
De contraste. On enrichit, on avance, toujours avec de la curiosité, de l'envie, et puis se dire, ça a marché avec un tel, ça a marché avec un autre, ça marche. On a invité Bazbaz, Gimba, Fixie, Rosemary. C'est des invitations, parce qu'on voulait vraiment défendre l'album, nous, sans compter sur quelqu'un pour mettre en valeur notre album. Et c'était vraiment des invitations de cœur et de très 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 bons musiciens. Et puis quand ça marche, et puis qu'ils répondent, et quoi, ça te donne confiance, donc tu peux continuer et aller chercher, aller demander à qui tu veux, tu te permets beaucoup plus, tu oses beaucoup plus.
Plus d'assurance.
Ouais, complètement. Et de confiance.
Oui.
Par rapport à des choses qui sont déjà faites et qui se sont bien passées. Et puis le rendu, parce qu'on compose un titre, on ne sait jamais ce qui va en être. Et quand on se rend compte qu'en plus il est bien, il est à la hauteur, voire plus que ce qu'on a imaginé au départ, pareil, ça donne de la confiance et ça permet de construire beaucoup plus sereinement la suite tout le temps, en étant un peu moins flippé ou angoissé. Quoi.
Et le dernier titre de l'album, tu peux nous en dire quelques mots, Les Gaumont, qui sort un peu au niveau ambiance, qui est plus calme.
Ouais. Oui, c'est le monstre un peu de l'album. On appelle toujours.
Ah, tu appelles ça un monstre ?
C'est Jean Lamotte qui appelle ça. Il y a toujours un monstre sur un disque. Tu vois, un morceau qui a rien à foutre là ou pas. C'est pas qui a rien à foutre là, c'est un morceau qui se détache un peu du reste, quoi.
Mais est-ce qu'il l'appelle pas justement la fin de la trilogie ?
Peut-être.
Pour aller vers autre chose, plus calme ou plus. Plus crooner.
Ouais, de toute façon, on travaille sur les voix beaucoup plus encore. On a un travail encore plus qui va être encore plus approfondi sur les voix que sur celui-là. Celui-là, il y a déjà eu un palier qui a été franchi par rapport aux autres. Vraiment, les voix sont bien bossées, c'est bien réalisé et bien produit, quoi, au niveau du son. Et Les Gaumont, donc c'est une reprise de Serge Gainsbourg. Donc c'est leur version originale. Moi, c'est un des morceaux de Gainsbourg de cette période-là que je préfère, que j'aime énormément. Et puis il y avait cette espèce de transe avec la contrebasse. J'étais parti un peu sur cette ligne-là, un peu gnawa, Méditerranée. Et puis que l'on prend, que l'on jette, que la mer rejette. Ça me faisait. C'était à l'époque vraiment où il y avait beaucoup de choses qui étaient faites et il parlait. Malheureusement, c'est comme si ça avait existé sur une période, mais c'est les migrants qui quittent l'Afrique, qui traversent la Méditerranée, qui mettent leur vie en danger pour venir en Europe. C'est quelque chose qui n'a pas existé pendant 5 ans, c'est quelque chose qui est depuis très longtemps et qui continue. Il y a des gens qui meurent encore tous les jours aujourd'hui en mer, etc., etc. Mais il y a eu beaucoup de projecteurs qui ont été mis sur ces femmes. J'avais lu une histoire en fait où on voit la femme. La femme avec le passeur qui pointe une kalachnikov sur la tête de son bébé, s'il pleure pas, il va appuyer sur la détente parce qu'il faut pas se faire repérer des trucs assez sordides à ce moment-là où c'est vrai que médiatiquement c'était beaucoup plus mis en avant. Mais ce morceau-là, il faisait écho à tout ça aussi, quoi, Les Gaumont. Et avec cette transe, avec ce clin d'œil un peu à l'Afrique du Nord aussi, d'où mes enfants sont originaires, etc. Donc on l'a construit un peu comme ça, mais au départ, ça pouvait être juste une version de 2-3 minutes. Et puis on a fait une version de 37 minutes.
C'est possible.
On a encore, qui est pas sorti. Ça, c'est l'œuvre de Jean Lamotte. C'est-à-dire qu'on était en studio, c'était à la fin, tout à la fin. Donc j'ai fait une ligne de contrebasse. Jean, il a construit rapidement une boucle autour de cette ligne. Il l'a lancée. Et on est parti dessus, chant, harmonica, sur cette ligne de contrebasse, simplement, avec kick, en studio. Donc on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois. On a laissé un peu traîner, il a eu de l'harmonica. On a fait une troisième fois, une quatrième fois. Pour se dire, dans les quatre, il y a une prise qui est cool, quoi. Tu vois, comme on fait un peu en studio, quoi. Tu fais 3-4 prises, puis tu choisis celle qui te paraît la mieux. Tu peux même faire du montage ou quoi, mais là, en gros, il y avait une prise qui se tient avec des défauts, mais en tout cas, tu te dis, celle-là, c'est celle-là. Peut-être la troisième, c'était la bonne, mais Jean, il a fait enregistrer le batteur qui s'est arrêté, qui est reparti, qui a continué. Donc elle finit tout seul à la batterie, tout le monde s'est mis à triper un peu sur le truc, donc ça s'est allongé jusqu'à 20 minutes. Et puis ensuite, il y a le guitariste qui s'est un peu raté sur la séance, qui a voulu recommencer le lendemain, et là qui a fait 30 minutes. Donc il lui a remis de la batterie après, il continue à triper, il lui a remis de la batterie, il testait plein de sons, il faisait plein de trucs, c'était des parties, c'était des moments où chacun a pu s'exprimer un peu, quoi. Et moi, j'ai regardé le truc, je fais 37 minutes, les gens ont à faire de ce truc-là.
Pour les fans.
Il me dit, tu peux pas inviter tous tes potes là, enfin, pas tous tes potes, mais des potes qui jouent bien, des solistes. Donc on a invité Fixie, on a invité Gimba, on a invité David Chalumeau à l'harmonica. Diane, René Rodriguez qui est venu faire des claquettes aussi sur le titre qu'on a gardé un moment. Donc tout ça, voilà, ça faisait de la matière dont Jean a pu se servir et il a construit un morceau de 37 minutes qu'on a et on en a gardé 7 minutes 30. Voilà. Et qui, ça ressemble à quelque chose qu'on retrouve à la fin de l'album. Donc une longue transe comme ça, un peu, on imagine être sur un bateau. On sait pas trop où il va aller, avec qui, ni quoi, ni comment, puis ça reprend, puis ça s'arrête, puis ça reprend, puis ça s'arrête, puis ça reprend, puis ça se finit, puis chacun s'exprime là-dedans, et j'ai réécouté il y a pas longtemps, et vraiment, c'est assez...
Touchant.
Ouais, et puis je suis content de cette personne de Gainsbourg qui a parlé à beaucoup de gens, voilà.
Merci pour cette explication très complète. Et ce soir, alors, pour le live, on va voir une bande de copains qui font la fête ou cinq musiciens redoutables?
Cinq musiciens redoutables. C'est-à-dire que la bande de copains qui fait la fête, on l'a de toute façon en nous, on est des frangins maintenant, on est une famille, comme tu disais tout à l'heure, qu'on ait un vrai plaisir d'être ensemble. Mais on a aussi vu le temps qu'on passe ensemble, qu'on a passé ensemble, et de l'envie de faire de la musique de qualité. Donc effectivement, sans que ce soit pompeux et prétentieux, mais en tout cas, une musique qui nous parle, qui nous plaît, qui doit être bien jouée, comme n'importe quelle musique en tout cas, mais on monte pas sur scène pour se bourrer la gueule et dire des conneries. On aime bien être chaud, il y a un côté très rock'n'roll dans notre énergie, donc on a ce truc-là, et donc faut être cool, et on aime bien boire un petit coup avant de jouer, on aime bien ces choses-là, on aime bien monter sur scène où t'es à l'aise, et t'as vraiment envie de jouer, et t'es heureux de jouer, quoi. T'es pas en train de vomir tes tripes juste avant. Mais voilà, je sais pas, peut-être qu'on l'avait un peu dans les cafés. Mais ça, non, il y a toujours une exigence en tout cas. Donc, et j'ai rien contre les copains qui font la fête. Mais je préférais ta première explication.
Et le plus du concert, c'est y aura des titres inédits ou ce sera vraiment
là,
principalement l'album.
Là, c'est l'album. En fait, c'est ce qu'on a monté sur le live au début. Donc, on a joué l'album en entier. Et puis on a pour la release party, pour la sortie de l'album à la Maroquinerie, là, il y a un an, à Paris. Et puis en montant le set, on a fait deux résidences, on a mis en place un show lumière aussi dessus. Et donc par rapport à ça, on a fait évoluer notre set en reprenant aussi des morceaux qui marchaient bien du premier et du deuxième album.
Est-ce qu'il y aura la dèche?
Et il n'y a pas la dèche.
Ah.
Ben, on joue qu'une heure dix après. Donc faut faire un choix entre
dans les loges peut-être.
Les 45 titres qu'on a joués. Voilà, mais vous pouvez le trouver sur le maxi 45 tours qu'on vend sur le merchandising après le concert.
Et par rapport à Courzic, est-ce que ce nom t'évoque quelque chose à part le nom du village? Courzic.
Voilà, musique. Non, c'est toujours un peu les noms de. Ça me fait rire un peu à chaque fois les. On reste à peu près souvent dans les mêmes jeux de mots de festival, et en vrai je crois que ça fait partie du truc d'avoir des noms, d'avoir des espèces de jeux de mots entre le nom du bled, la musique, la fête forcément, ou la chanson, ou le style musical, que ce soit du rock, du rap, du hip-hop, enfin voilà, du folk. Donc, y a souvent ces noms-là avec le nom de la musique, ou voilà. Mais le nom en lui-même, il m'évoque pas quelque chose en particulier.
D'accord. Très bien, merci.
Programmation, oui.
Ah, ok.
La programmation, je la trouve cool.
Très bien. Si tu as les possibilités d'arrêter le temps, là, tout de suite, et que on te proposait un artiste avec qui réaliser un titre ou un album, si je te dis San Severino, Renaud, Johnny Cash, tu choisirais qui?
Johnny Cash.
Ok. Et un petit, je vais prendre une deuxième quand même. Tu peux nous parler de la BO du film Enfant Phare, qui marche très bien le film.
Alors la bande originale. Comment ça s'est passé Moi, je fais pas partie du tout de. Moi, j'ai joué en tant que comédien dans le film.
D'accord, oui, mais tu peux.
Et alors la bande originale, j'ai rencontré la personne qui a créé la musique pour le film. Il a créé beaucoup de parties à lui.
Je pensais que tu avais participé un petit peu, excuse-moi.
Non, pas de problème. Ah non, non, j'aurais, ça aurait été avec grand plaisir. On a bien parlé avec le compositeur. Mm-hmm. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il a enregistré la fanfare à l'harmonie. C'est pas une fanfare, c'est l'harmonie des mineurs de l'Alain. Donc, c'est l'harmonie de Wallincourt dans le film, mais ils sont à l'Alain, pas loin de Douai, donc dans le nord de la France. Et ils ont enregistré quelques titres pour lui dans la bande originale, mais en elle-même, je l'ai écoutée, je la trouve très très belle. Et, le fait qu'il y ait l'harmonie, etc. Je trouve que ça, c'est une musique de film qui sort un petit peu de l'ordinaire, parce que je trouve qu'aujourd'hui, elle se ressemble beaucoup. On est beaucoup dans la musique concrète, de nappe, de vagues, d'ambiance. La musique de film, elle a vraiment évolué comme ça. C'est plus un personnage comme dans les films de Tarantino ou de Sergio Leone qu'on parle, où la musique, tu t'en rappelles autant que des personnages, en fait, quoi. Là, elle accompagne beaucoup plus les choses, elle est beaucoup moins personnelle. Aujourd'hui, je ne suis pas un grand cinéphile non plus, mais j'ai l'impression, en tout cas, que c'est ça. Celle-là, en particulier, le fait qu'on entende l'harmonie dedans, je trouve que c'est cool. Et ça m'a... Je l'ai écouté avant de voir le film, et je retrouvais un truc cool dedans. Mais voilà, après j'ai pas participé, j'ai pas chanté non plus, j'ai pas joué de la musique dans le film, j'ai vraiment fait l'acteur, comme je le fais de temps en temps dans certains films maintenant. En parallèle
une carrière en parallèle peut-être fais ça à la demande, pas forcément.
J'ai un agent, je passe des castings, on propose des choses, donc je le fais, c'est intéressant, c'est excitant, je suis curieux. C'est des univers que je connais pas du tout au départ, comme la musique. Moi, c'est des choses que j'ai. C'est un peu des rêves d'adolescent, hein, tout ça. C'est se dire, tiens, écouter de la musique et s'y croire, s'y voir, aller voir des concerts, s'y croire, s'y voir. Avoir envie de partager un peu, de partager ces moments, de ressentir ce que les. Quand tu vois des gens sur scène, ça t'es électrifié dans le public. Ouais, il y a un truc, c'est magnétique, quoi. T'es attiré par ça, tu sais pas pourquoi. Et après, tu découvres le fait de chanter, de jouer de la musique, le bien que ça peut te faire. En tout cas, moi, pour moi, c'est ça, le bien que ça m'a procuré, etc. Et heureux d'en être, avoir envie d'en découdre. Et puis, cette adrénaline au départ liée au track et à se mettre en avant, à faire ces choses. Et puis, c'était toujours lié un peu avec l'ivresse aussi. Donc, il y avait une manière de le relâcher, de faire sortir un peu tout ce qu'on a dans le beat, tout ce qu'on a mal, qu'on sort pas, qu'on sait pas dire, qu'on sait pas faire. Et là, on peut le cracher, on peut le crier, on peut le hurler, on peut se défouler, on peut se déchaîner avec la musique. Et d'où le rock et le rock'n'roll, forcément, qui sont des choses qui me parlent beaucoup, mais dans l'intensité aussi, j'ai appris à le faire avec le temps. D'une chanson calme, posée, tu peux mettre encore plus d'énergie et d'intensité. Voilà, moi j'avais envie de, peut-être par bêtise, par ego, j'en sais rien. Je pense par besoin, par émotion, par sensibilité. Il y a des choses à faire sortir, des choses à dire, des choses qui me touchaient, des situations, des personnes qui mettaient les larmes aux yeux. J'avais vraiment besoin d'écrire, de faire sortir, de m'accomplir comme ça pour moi. Et voilà, et d'en être là aujourd'hui, humblement, avec l'équipe qu'on a montée, sur les routes, partout, avec des beaux albums à défendre, et en tout cas des belles personnes avec qui on travaille dans la musique. Dans les à côté, c'est beaucoup plus compliqué en production, etc., de bien s'entourer. Mais en musique, en tout cas, ça, on a réussi à le faire. Je suis assez fier de ça quand même, de cette équipe de scène qu'on a réussi à monter, parce que j'en suis un peu l'initiateur au départ, mais il a fallu que... C'est ça qui était drôle, c'est de les voir au départ. J'ai dit, tiens, je vais ramener un pote là, on va essayer. Puis de voir que ces deux personnes-là, en fait, tu l'avais pas du tout prévu, mais tu les vois comme cul et chemise. Et du coup, ça, c'est des sensations très, très, très agréables. C'est le petit plus, quoi. Parce que ça le fait musicalement, ok, c'est bon. On n'est pas obligé d'être potes dans la vie, mais en plus, tu vois que... Ah, mais putain, mais les deux, là...
Il y a d'autres connexions...
Ouais, et ça c'est quand même, ouais, ça c'est des beaux cadeaux, quoi, très très beaux cadeaux de grâce à la musique, à la vie, puis on est libre, hein, on fait ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut, on joue ce qu'on veut, et on a la chance d'être invité sur des festivals, d'être à l'affiche, c'est génial, on continue. On continue toujours avec cette énergie-là.
Je te remercie beaucoup pour...
Merci à toi.
Ces réponses.
Mais plus fort.
Avec Johnny Montreuil.
Mais plus fort.
Kurozoku me mantano kilo. Karisma no Piero yorimo. Team battle ga aishita kanashi aitsu no kimochi yoku wakaru yo. Yoku baru za ore mo motto. Osvaldo koboru potto. Oyama no be funzori kaeru. Bostardo mo furu boko. Doku ga.
Le coup de cœur de Jody de Radio Mono de cette semaine, c'est le duo Creepy Nuts. Découverte.
Creepy Nuts est un duo de hip-hop japonais, composé du rappeur R. Shitei et du compositeur DJ Matsunaga. Kyohei Nogami dit R. Shitei et Kunihiko Matsunaga dit DJ Matsunaga fondent le groupe en 2012. Ils sortent leur premier album studio intitulé Creep Show le 11 avril 2018. Le groupe est principalement connu pour son hit Bling Bang Bang Born, servant de générique de début à la saison 2 de la série Marshall Magic and Muscle. Le titre atteint la deuxième place du Billboard Global 2018, a été trôné 16 semaines à la première place du Japan Hot 100. Le duo a également interprété les titres d'Aten et Yofukashi no Uta, lesquels ont respectivement servi de générique de début et de générique de fin à la série d'animation Call of the Night.
やったらメンタルマットのメンタルやんでるメンナプレイ生きたライバルみんな遊べてた真っ赤な目勝手思えばどっから来てどこへ行ったアスタルミスト欲に出んな俺お前のドッペルゲンガー処理無理張ったら結果のサンドのメッシュより頑張るペーパーチョイス受かったメンタルも疾患持ったらヘイターあんたの目かけオフクビンタぶっ飛ばしちゃうアンドロメダとっくにフェイドアウェイ俺お前のドッペルゲンガー俺お前の痛みの根源俺お前の怒りの根源汚らわしい魂の根源俺のせいにしたらば OK てっててっぱなした肯定してやるから鏡のぞいて血まだっては誰もが大で赤白棒で花一門目あいつの人間どうもねえ誰もが持ってる一点もんらしい10分だけはでも結局ミスターノーバリー誰でもあり誰でもないまた新しいその人生もらい毎日と会ってるずっとすれ違ってる特に入れ込まってるもう随分経ってる目が合ったら即死怠けない直進一人二人三人二飯ならこっち鎧であり仮面であり着ぐるみか戦闘機身代わり生まれ変わりまあ何でもいい出るエンドルフィン俺が表お前が裏お前表で俺が裏までしてもいい好きな時にそう入れ替わりかましますか
やったらめったらマットなメンタルやんでるメンナプレイ生きったライバルみんな遊べてた真っ赤な目勝手思えばどっから来てどこへ行ったアスタルベストよく似てんな俺お前のドッペルゲンガー処理無理
忍び込ますあっちゅう街の色に染まる、うん、でもてめえの身を切るバスで待ってく命のサイクルみなぎるパワーうわ飛行中夜中のあいつ昼間のパパ1,2引っ込んだらすぐお迎え行くテレビのあいつ見物のあいつ踏み越えて世界中しれっと背後に立つ紛れる歌手誰も知らないあいつあいつ
Mais plus fort.
C'était Creepy Nuts dans Mais plus fort. L'association Aquatin Song à Tinqueux près de Reims propose une nouvelle soirée vendredi 28 mars prochain à 19h à la maison des associations de Tinqueux avec les concerts du Lorrain Alex Toucourt et Eddy Lagoyach. Toutes les infos sont sur la page Facebook Aquatin Song et voici Eddy Lagoyach maintenant dans Mais plus fort.
Pendant que la grisaille nous fait de l'eau pendant que les vieilles dames fleurissent les tombes pendant que l'on bataille, qu'on chute, qu'on tombe. On y pense, c'est vrai, on y pense, je sais. On refait le monde un peu plus haut. Fait le monde.
Fort avec Eddy Lagoyach. La cinquième soirée Dansodrome de Yuxek aura lieu également vendredi 28 mars, mais cette fois à la cartonnerie de Reims. Yuxek a, comme à chaque fois, invité du beau monde à ses côtés, puisqu'il y aura Chloé, Weekend d'affaires, Fatnotronic et Chilam Balam. Les réservations se passent sur cartonnerie.fr.
Mais plus fort.
Et c'est avec Yuxek et Fatnotronic que se conclut l'émission pour aujourd'hui. Amis de la musique de tout poil, rendez-vous d'ores et déjà dans le prochain épisode de Mais plus fort. Il arrive très vite sur Radio Primitive, Radio Mono, RJR et Radio Campus 3.
Comme mon logo, comme un jour, comme un mess.